Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tony, comment vas-tu?
Ça va bien, en pleine forme.
Merci déjà d'avoir accepté l'invitation.
Ouais, plaisir. Pour déjà, vous êtes venu ici, chez moi, donc
c'est un plaisir.
J'ai pas besoin de bouger, moi.
Dans le très beau studio.
Merci.
On va en parler plus tard, c'est par rapport à un nouveau format qui arrive très vite. Mais avant ça, on va parler de tout ton parcours.
Okay.
On va parler de tes débuts dans le basket, de ton amour pour cette discipline, de ton après-carrière. Et on va aussi commencer par le début de ton histoire. Vraiment tout début, parce qu'on te connaît en tant qu'icône française du basketball. Et ton histoire commence en Belgique, et ça, c'est déjà en lien avec le basket.
Bah, donc j'ai un père américain, j'ai une mère hollandaise, je suis né en Belgique et je suis français. Donc j'ai un peu grandi, on va dire, avec les deux cultures. Mon père, il me parlait en anglais, moi et mes frères, on parlait en français. Donc j'ai deux frères, deux petits frères. Et donc voilà, j'ai grandi avec les deux mentalités. Je dis toujours que j'ai eu le meilleur des deux mondes. J'essaie toujours de prendre le meilleur des deux mondes. Et ça a fait un petit cocktail explosif qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière de sportif. Mon père était basketteur professionnel. Il joue aux États-Unis. Il a rencontré ma mère quand il est arrivé en Europe. Ma mère était mannequin. Et après, elle est devenue diet coach, on va dire, elle aidait pour la nourriture. Et donc, en fait, c'était parfait pour moi. Parce que moi qui voulais devenir sportif, à 3 ans, je dribblais déjà. Je suivais mon père partout, à tous les déplacements. Et quand je me suis inscrit pour la première fois à 9 ans dans un club, après, c'était parti, quoi. J'ai grandi en voyant Michael Jordan. Jordan, c'était mon idole. J'avais des posters de lui partout dans ma chambre. Je me levais à 3h du matin pour regarder les matchs. J'étais à fond et c'est vrai que ça m'a énormément aidé.
Okay. Dans quel contexte vous êtes amené à arriver en France par la suite?
Et ben en fait, mon père, il a rencontré ma mère donc à Amsterdam. Il a joué 2 ans aux Pays-Bas. Après, il est arrivé en Belgique. Il a joué 2 ans. Et là, moi, je suis né, mais on est resté que 3-4 mois. Je suis né et après, on est parti direct en France. Et mon père, il a fini sa carrière de basketteur en France. Et après, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de rester. Il n'a pas décidé de repartir aux États-Unis. Il se plaisait bien en France. Ils ont appris la langue. Et parce que maintenant, ils parlent couramment français, mes parents. Et donc, on a grandi en France.
Donc il y a un monde où potentiellement tu aurais pu totalement vivre ta vie aux États-Unis.
Ah bah bien sûr, on aurait pu repartir, aux Pays-Bas, on aurait pu repartir en Belgique, on aurait pu repartir aux États-Unis. Mais je sais pas, mes parents ils ont adoré la France et donc on est resté.
Et par rapport à ta passion dans le basketball, t'as mentionné le nom de Michael Jordan. Est-ce que ça t'est venu aussi naturellement que ça ou est-ce que tu étais forcément prédestiné à t'intéresser à ce sport?
Je pense un peu des deux. Je pense que j'étais un peu destiné à avoir beaucoup de basket, le fait que mon père était basketteur. Mais après, je regardais beaucoup la télé et comme mes grands-parents, ils étaient américains et que mon père était américain, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis et ils sont de Chicago. Donc à l'époque, les Chicago Bulls, c'était la meilleure équipe. Je me rappelle, la première finale que j'ai regardée, c'était 91. Les Bulls contre les Lakers, donc Jordan contre Magic Johnson. Et puis après, ça a explosé en Europe quand ils sont venus en 92 pour les JO de Barcelone. Tu avais le Dream Team. Et moi, j'étais petit à cette époque-là, j'avais 10 ans et j'étais allé au match à Monaco. Ils avaient fait un match amical contre la France. On s'en est pris 40, 50, enfin, on s'est fait défoncer. Et c'est mes premiers souvenirs de basket. Et c'est là où j'ai commencé à rêver de NBA. Parce que maintenant, la génération d'aujourd'hui, c'est un objectif d'aller en NBA. Moi, à l'époque, c'était un rêve. Il n'y avait pas beaucoup d'Européens en NBA. Il n'y avait pas de meneur européen qui avait réussi en NBA. Et donc, c'était tellement le rêve impossible. Donc, c'était un peu différent.
J'ai vu que tu avais grandi majoritairement avec ton papa. Mm-hmm. Au moment où tu t'intéresses à ce sport, donc le basketball, et que tu as envie de le pratiquer, j'imagine qu'il y a une sorte de préformation qui s'effectue avec ton père.
En fait, ce qui s'est passé avec mon père, il m'a beaucoup aidé pour le côté mental. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Le mental, c'est ce qui fait la différence entre les petits joueurs et les grands joueurs. Moi, quand j'étais petit, il y avait des joueurs qui couraient plus vite que moi. Il y avait des joueurs qui étaient plus grands que moi, plus costauds que moi. Mais s'il y avait un truc que je me disais, il ne me battra jamais, c'est le mental. Parce que c'est ça qui va faire la différence quand les champions de l'entraînement, là, arrivent en match et tu as le stade plein, tu as 20 000 personnes qui te regardent, et là, comme par hasard, il n'y a plus personne qui veut la balle. Et moi, plus il y avait de pression et plus j'étais bien, plus je voulais le ballon, enfin, je me sentais trop bien dans cette situation-là. Je savais que j'étais un peu différent des autres.
Tu avais du talent ?
Je pense que j'avais du talent, mais ce qui a fait la différence pour moi, c'est le travail et mon éthique de travail. Pareil, très tôt, quand j'étais jeune, 14, 15 ans, tu sais, tu commences un été, tu dois faire une préparation, et puis il y a tous les potes, on est tous là, on est 15. Et tout le monde est là, le premier jour, tout le monde est là à 6h du matin, on fait notre sport, et puis le soir, ça fait la fête, et le lendemain, on n'est plus que 7, et le troisième jour, on n'est plus que 4, et puis le quatrième jour, je suis tout seul, en fait. Et c'est là où j'ai vu que mon éthique de travail, elle était vraiment différente des autres. Moi, j'étais prêt à faire tous les sacrifices, je voulais vraiment sortir ma famille de la merde. Parce que j'étais un peu traumatisé quand j'étais petit. Mes parents, ils ont travaillé dur, mais tu sais, c'est dur de gagner de l'argent, d'avoir un salaire quand t'es étranger. Ma mère, elle n'avait pas de passeport français. Et des fois, on n'a pas pu payer le loyer. Et tu sais, ça te marque quand t'as les huissiers, tu sais, qui viennent dans ta maison et qui prennent la télé, qui prennent une table. Ça m'a laissé une cicatrice. Et donc, ça m'a donné justement ce goût du travail pour me dire que j'aimerais plus jamais revivre ça. Et je veux plus jamais que ma famille soit dans la merde.
Et par rapport à ta taille, quand tu as commencé le basket, est-ce que c'était un sujet
Je ne me suis jamais posé cette question-là, parce que quand je regardais la NBA, il y avait Muggsy Bogues, il faisait 1m55, je me dis bon, je fais 1m85, 86, je dis ça va. Et puis j'étais tellement rapide, de toute façon, je me disais, je trouverais toujours des solutions. Et c'est pour ça aussi, très tôt, j'ai développé mon tir drop, le tir dont je suis connu. Je l'ai développé très tôt parce que comme les gars, ils étaient grands, il fallait bien que je trouve un moyen de scorer.
Vous n'êtes pas à l'expliquer pour les gens qui ne sont pas forcément...
Le tir drop ? Alors, le tir drop, c'est un tir en cloche, en fait. Parce que moi, tu sais, moi, dans mon monde, c'est moi le plus petit, 1m86. Tout le monde fait 2m, 2m15, 2m30. Et donc, il fallait que je trouve un tir pour retirer au-dessus des défenses, au-dessus des grands. Et c'était une façon pour moi de me démarquer. Et donc, je l'ai vraiment perfectionné quand je suis arrivé en NBA. Et donc, j'ai été après connu pour ça, que j'ai inventé, entre guillemets, ce tir.
Comment se passe ton arrivée à l'INSEP ?
L'INSEP, ils m'ont recruté. Moi, j'ai grandi en Normandie. Donc, à cette époque, je jouais à Mont-Saint-Aignan, au championnat de France minime, U14. Et à l'époque, tu sais, la Fédé, ils envoient des scouts un peu partout. Donc là, il y a le coach de l'équipe de France cadet qui me sélectionne en équipe de France. Donc en fait, je suis surclassé parce que moi, je suis de 82. Et là, c'était la génération 81. Donc je joue avec un an d'avance, ça se passe bien. Après, je suis double surclassé. Je joue avec les 80. Donc ce qui est rare dans le sport, c'est très rare qu'ils te surclassent parce qu'à cet âge-là, il y a une grosse différence physique. Tu sais, quand tu es jeune, quand tu as 14, 15, 16, c'est des grosses différences. Donc moi, j'avais 16 ans et je jouais contre des gars qui avaient 18 ans, quoi. Donc ça faisait une grosse différence physiquement. Et moi, je me suis toujours bien sorti et ils m'ont repéré très vite. Et donc, ils ont contacté ma famille et ils nous ont fait une offre, quoi, de venir à l'INSEP. Donc, moi, je connaissais pas trop à l'époque. Moi, j'avais le format, tu vas dans un club pro, tu joues en espoir et après, tu essaies d'intégrer l'équipe professionnelle. Et l'INSEP, c'était là où il y a tous les meilleurs athlètes de tous les sports, sauf le foot, parce que le foot, ils sont à Clairefontaine. Et donc, c'était cool de voir tous les meilleurs de ton âge, de chaque sport. Gaël Monfils, Teddy Riner, tu sais, on était Ladji Doucouré, Leslie Jones, on était tous ensemble. Et c'était sympa. C'était sympa. C'est là où après, la NBA, c'était plus un rêve. Après, c'était un objectif après. À 14, 15 ans, je dis OK, je fais partie des meilleurs joueurs de ma génération. Maintenant, c'était un objectif.
Mais ton arrivée, elle se passe pas aussi facilement que ça. J'ai vu quand même qu'il y avait des hésitations par rapport à ta taille.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ils trouvaient que j'étais un peu trop petit, que j'étais un peu trop maigre. et donc, on avait fait une visite à Cholet, qui était considéré comme le meilleur centre de formation à l'époque. Et donc, j'avais même signé un contrat, mais j'avais une clause dedans qui disait que si l'INSEP me prend et me fait une offre, je pars à l'INSEP. Et l'INSEP, ils ont beaucoup hésité. Et c'est mon parrain, qui s'appelle Jean-Pierre Stalins, qui a d'ailleurs toujours le record dans un match de basketball professionnel en France. Il a mis 71 points. Il a joué, je sais pas combien de sélections il a eu en équipe de France.
C'est de lui que tu tires ton numéro 9 aussi.
Un peu, lui et Jordan, tu vois.
Par rapport à la Dream Team.
Ouais, par rapport à la Dream Team, exactement. Et donc, c'est lui qui avait mis un petit coup de pression à la Fédé pour dire, mais il faut donner une réponse là, et tant pis pour vous si vous voulez pas le prendre. Et après, bah, finalement, ils sont décidés et finalement, je suis rentré à l'INSEP.
J'ai vu qu'il y avait deux angles de vue à ton arrivée. Il y avait toi qui te revendiquais comme étant un joueur bon, mais pas forcément fondamentalement au-dessus des autres, comme quoi il y avait des gens qui étaient peut-être plus forts que toi à cette époque-là ou plus talentueux. Et d'un autre, il y avait le point de vue des joueurs eux-mêmes, que j'incarne par celui de Boris Diaw, qui te définissait comme le joueur du moment. C'est-à-dire qu'il ne t'avait pas encore rencontré, mais il avait déjà entendu parler de toi à cette époque-là.
Ouais, tu as toujours une différente vision, tu vois, parce que moi, je veux progresser, je veux être le meilleur. Et comme j'étais tout le temps surclassé, tu sais, je n'étais pas le meilleur, tu vois. Je n'étais pas encore MVP du championnat d'Europe ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que la vision de Boris, eux, ils me voyaient comme le surdoué qui est surclassé, ce que je peux comprendre. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Je veux essayer de devenir le meilleur dans le monde, pas que en France. Et donc, c'est que après, quand je suis arrivé avec ma génération, donc finalement, après que j'ai joué avec les 80, les 81, après quand j'ai commencé à jouer avec les 82, là, j'ai commencé à vraiment dominer. Et donc, j'étais MVP du championnat d'Europe. Et on a été champion d'Europe en 2000.
Et c'est à ce moment-là que tu prends la nationalité française ?
En fait, je l'ai pris quand j'ai fait ma sélection en équipe de France cadet. Donc, en fait, à 14 ans, c'est là où ils ont demandé à mes parents si je voulais devenir français. Parce qu'à l'époque, j'avais qu'un passeport américain. J'étais allé qu'aux États-Unis pour aller voir mes grands-parents. Et donc là, mon père, il prend la décision de me faire le passeport français. Et donc, je deviens français à cette époque-là.
Ça t'a apporté quoi, l'INSEP ? Avec du recul ?
Ça m'a montré ce que ça allait être si je voulais devenir professionnel. Être avec les meilleurs, tu sais, c'est inspirant. Et c'est là où que je me suis décidé à dire « Ok, je veux devenir basketteur professionnel ». Puis en plus, à cette époque-là, c'est trop bien parce que tu n'as pas de pression, on est un peu inconscient, quoi. Tu joues au basket, après tu vas à l'école, c'est un peu comme être en université aux États-Unis. C'était mon université à moi, entre guillemets, parce que tu es dans un campus, tu traînes avec tes potes. Et puis là, il y a zéro pression, il n'y a pas l'argent, tous les trucs. C'était vraiment des relations pures et tout ce qu'on voulait, c'était progresser et devenir un meilleur basketteur.
C'est peut-être une ambiance qui est différente de celle d'aujourd'hui.
Ça n'a rien à voir. Après, quand tu rentres... Et encore, moi, j'ai eu de la chance quand même globalement moi, dans ma carrière parce que j'ai joué aux Spurs presque toute ma carrière. Et aux Spurs, on était en mode ambiance INSEP. On était très proches et on a vraiment créé une ambiance et une atmosphère où c'était vraiment une famille, les Spurs. Et l'équipe de France, pareil, parce que j'ai joué avec Boris Diaw, Ronny Turiaf. On était tous ensemble en équipe de France junior. On était ensemble à l'INSEP et on a pu avoir cette génération dorée rester ensemble pendant longtemps.
S'il y avait un souvenir à retirer, enfin en tout cas à retenir de cette expérience de l'INSEP, ça serait le championnat d'Europe pour toi.
Regardez les Français, regardez-les, ils n'y croient pas, oui. Ils y croient.
Et bien voilà comment on se fait des amis pour la vie. Parce que ça, quand on construit dans un environnement aussi difficile une victoire ensemble, ce sont des souvenirs extraordinaires pour toute votre carrière.
Regardez Popovic.
Ouais, après on a le record aussi de victoires. Ma génération, c'est l'année où il y a eu le plus de victoires pour une équipe de l'INSEP. Mais si je devais retenir un truc, c'est l'apothéose, c'est cette médaille d'or au championnat d'Europe junior.
Est-ce que je peux me parler de l'après-INSEP ? Comment se passent tes débuts en pro ?
Pas facile, parce qu'après tu rentres en pro et quand en plus moi je décide de rester à Paris, j'avais envie de rester à Paris, donc je signe au PSG. Et il y a un gros meneur devant moi, c'est le meneur de l'équipe de France qui vient de faire des JO incroyables à Sydney où ils sont allés chercher la médaille d'argent. Et donc je suis resté sur le banc toute la saison, j'ai pas beaucoup joué. Et les peu de matchs, par contre, où ils m'ont donné une opportunité, j'avais fait une pointe à 20 points. Et après, j'avais eu le Nike Hoop Summit aussi. Donc ça, c'est un match où Nike, ils invitent tous les meilleurs joueurs des États-Unis de moins de 18 ans qui jouent contre tout le reste du monde, en fait, les meilleurs joueurs. Donc tu as un joueur qui représente chaque pays. Et donc à ce match-là, j'avais cartonné aussi. Donc j'avais fait assez de choses pour prouver au président que l'année d'après, je pourrais être titulaire et avoir ma place. Parce que l'année d'après, le meneur en question part à l'ASVEL. Et donc là, après, je deviens meneur titulaire de l'équipe au PSG. Et donc là, cette année-là, j'explose.
C'est intéressant l'initiative du match qui regroupe un peu tous les prospects du monde. À cette époque-là, tu avais joué contre des joueurs que tu affronteras plus tard en NBA ou...
Ouais, ouais, il y avait Zach Randolph, c'est celui, je pense, le plus connu, qui a eu une carrière. Il a été All-Star, j'ai joué contre lui en playoff, il jouait à Memphis. Je dirais que c'est le meilleur joueur. Tu avais aussi Carlos Boozer et Chris Duan, c'était un meneur qui a joué aux Bulls, mais il n'a pas fait une longue carrière en NBA. Mais tu en avais quelques-uns, ouais.
Et à cette époque-là, quand tu deviens titulaire et que tu es dans le 5 majeur pour la deuxième saison, tu as quelle place au niveau des cadors français ?
Bah là, je suis le petit jeune qui monte. Parce que ma première sélection en équipe de France, elle arrive en novembre 2000. Donc là, je commence à exploser. Donc quand j'arrive, je suis encore le petit jeune.
Je te demande ton statut pour savoir dans quel état d'esprit tu étais et si tu étais assez confiant du coup pour prétendre à cette place à la draft plus tard.
Alors à cette époque-là, moi, je ne pensais pas à la draft. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, la NBA à cette époque-là, c'était tellement loin, c'était tellement dur d'être drafté. Que à cette époque-là, je ne pense pas à la draft. Je me dis que de toute façon, c'est de 18 à 22 ans, donc tu as 4 ans et tu choisis l'année où tu penses que tu as tes meilleures chances. Et donc moi, à cette époque-là, je pense plus à « il faut que je joue bien, Paris, PSG, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné une place de titulaire, il faut que je défonce cette saison-là ». C'est que à la fin de la saison, où là je termine meilleure progression, meilleur jeune de l'année, je termine troisième à l'élection du MVP de la saison. Et là, les scouts commencent à appeler mon agent et dire si Tony met son nom à la draft, il sera drafté au premier tour.
Et du coup, comment se passe la draft ?
Bah après, du coup, c'était beaucoup de discussions avec mon père. Parce qu'on se disait, OK, si je mets mon nom maintenant, je vais être sûrement drafté à la fin du premier tour. Mais... si je suis drafté à la fin du premier tour, je serai dans une bonne équipe. Donc on a vraiment essayé de réfléchir que stratégiquement avec mon père, qu'on s'est dit, tu sais quoi, vas-y, je mets mon nom maintenant. Parce que oui, si je fais une deuxième saison, que je suis MVP du championnat français et que je défonce tout, bah oui, peut-être j'aurais pu être top 10. Mais moi, je me disais, moi j'ai envie de jouer dans une bonne équipe parce que j'ai envie de gagner des titres. Et donc voilà, j'ai de la chance voilà, de la draft, parce que la draft, hein, c'est une loterie, hein, tu ne peux pas choisir où tu vas tomber. J'ai vraiment eu la chance d'être tombé à San Antonio.
Est-ce que tu peux me parler de tes premiers essais aux Spurs, le tout premier par exemple?
Ah, il était pourri, pourri. en fait, je venais de voyager, donc j'ai fait Paris-Chicago, et en direct sorti de l'avion, walk-out, et là il me met un petit vieux briscard qui avait joué à NBA, qui s'appelait Lance Blanks, et franchement il m'a défoncé, et j'ai pas très bien joué, et puis j'étais fatigué, et je me suis dit, de toute façon j'ai 15 walk-out, c'est bon. Mais c'est vrai que le fait que j'ai pas très très bien réagi, et ben en fait Popovic il voulait même plus entendre parler de moi quoi. Il a dit non, je veux pas de ce meneur, il est nul et tout ça. Et en fait après je suis parti faire d'autres walkouts pour d'autres équipes. Et là à chaque fois j'ai taffé les walkouts, donc je commençais à avoir un nom. Et les gens ils disaient ah Tony Parker le meneur le plus rapide qui a égalé le record de Allen Iverson, tu sais, au niveau de la vitesse tout ça. Et donc là Archie Bufford qui était le general manager à l'époque des Spurs. Et c'est lui qui croyait en moi énormément. C'est lui qui a montré mes cassettes à Popovic. C'est lui qui est venu me voir jouer à Paris. C'est lui qui m'avait découvert pour la première fois au Nike Hoop Summit. Il est re-allé voir Pop et il a dit non, franchement, il faut que tu le revoies. Il était sorti de l'avion, il faut qu'on le revoie. Et donc Pop, il a donné une deuxième chance. Et donc là, j'arrive à San Antonio. Et là, j'ai tout défoncé. Et après, ils ont dit non, mais il sera jamais fin de premier tour. Il sera drafté dans le top 20. Et en fait, je suis descendu jusqu'en 28 parce qu'à l'époque, les Européens n'avaient pas trop de respect, quoi.
C'est important de dire ça, que c'est pas la même notion des choses pour les Européens à l'époque où vous aviez beaucoup moins
à l'époque. Ils n'avaient aucun respect pour les Européens. Tu n'avais pas de franchise player européen. Les premiers franchise players européens, bah, c'est nous, ma génération, moi, Dirk, Pau, c'est nous les premiers joueurs européens qui portaient une franchise, qui gagnaient des titres. Et quand nous, on a réussi, bah, après, là, maintenant, il y en a plein, maintenant, Doncic, Antetokounmpo, Jokic. Maintenant, les franchises NBA n'hésitent plus à drafter un Européen pour être son franchise player. Et donc, Victor, il a été drafté numéro 1, ils n'hésitent plus.
Concernant Greg Popovich, on parle souvent de ses premières impressions sur toi. Ouais. Mais toi, quelles étaient les tiennes concernant le coach ?
Qu'il était fou. Il était fou à l'époque. Je ne vais pas dire voilà, le langage qu'il utilisait, les mots qu'il utilisait, mais il était fou. Et puis c'était le début de sa carrière, tu sais, il était encore jeune, il avait envie de réussir. Et maintenant, il est plus calme maintenant. Mais c'est vrai que moi, à mon époque, il était vraiment à fond, discipliné. Mais moi, j'avais déjà cette éthique de travail, donc ça matchait bien.
Et avant qu'on me parle de tes débuts avec les Spurs, j'ai vu qu'avant l'annonce officielle de la draft, tu apprends quelques secondes avant l'annonce officielle que tu vas signer au Boston Celtics.
Ah ouais, la draft, c'était fou la draft. Donc j'étais à la draft avec mon père, on est dans les tribunes. Et donc tu sais, à chaque fois, les équipes, ils ont 5 minutes pour donner le nom et qui je vais drafter. Et là, c'est le 21e choix, c'est les Boston Celtics. Et tu as le chrono qui commence et au bout d'une minute, tu as Chrissy, la dame de la NBA, qui vient me voir, qui me dit « Boston va te prendre, il faut que tu commences à descendre » et elle me donne la casquette des Boston Celtics genre pour que je me prépare à, genre, et je vais être drafté par eux. Et une minute après, alors il y a un truc, tu sais, sur le mic, elle entend, blablabla. Et en fait, ils ont changé d'avis. Et donc, en fait, je l'ai su plus tard que le coach et le general manager, ils voulaient drafter moi. Mais le président, qui s'entendait bien avec le président de North Carolina, ils avaient des connexions et ils ont dit non, non, moi je veux prendre Joseph Forte. T'as jamais entendu parler de lui, il a joué 2 ans NBA et puis jamais joué en NBA. Comme quoi, t'as vu la draft, ça ne joue à rien, quoi. Et à chaque fois que je voyais le coach et le GM, à chaque fois ils étaient comme ça parce qu'ils disaient nous, on voulait te prendre, nous. Et donc le président, il a changé d'avis, le propriétaire. Et donc bah, j'ai redonné la casquette et voilà, je suis avec mes larmes aux yeux remonté en haut et je dis ah, bon, bah, je vais pas être drafté. Jusqu'à 28, quand les Spurs, Pop a tenu sa parole et il m'a dit, après c'est eux qui m'ont raconté, hein, qu'ils ont fait une fête de malade parce qu'ils pensaient jamais m'avoir en 28. Ils essayaient de faire des échanges pour essayer de monter dans la draft, pour essayer de me prendre en 15e position. Ils n'arrivaient pas à faire des trades. Et en fait, ils n'ont rien eu besoin de lâcher et ils m'ont eu en 28.
With the 28th pick in the 2001 draft, the San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris, France.
And Rick certainly brought his name up earlier in the evening. Well, the Boston
coaches instead. Alors j'arrive à San Antonio et je pense les gens ils étaient curieux quoi. Bon déjà, enfin je l'ai déjà dit 50 000 fois, mais Duncan il m'a pas parlé de ma première année. Donc déjà t'as la star de l'équipe qui te regarde comme ça, genre ouais, genre c'est un petit meneur français qui va nous ramener un titre NBA. Je sais comment je voyais, c'est le gars. Il respectait pas les Français, il respectait pas le basket européen. Et il ne pensait pas qu'un meneur européen peut réussir en NBA, ce que je suis devenu après le premier meneur européen à réussir en NBA. Donc je peux comprendre qu'ils avaient des craintes et moi je le savais. Donc moi, ma motivation quand je suis arrivé, c'était il faut que je leur montre, il faut que je gagne leur respect. Et donc ça passe par le travail. Tu arrives le premier à l'entraînement, tu es le dernier qui part. Tous les joueurs, ils voulaient essayer de me tabasser parce qu'on avait un peu une réputation, les Européens, qu'on ne peut pas jouer physique. Ils voulaient me tabasser, je me relevais toujours. Un des premiers entraînements, il y a le vétéran Kevin Willis, qui avait 39 ans à l'époque. Je pénètre et il me défonce comme ça, il me pousse. Et moi, je me lève et je le repousse et tout ça. C'est pour montrer, moi, je vais me relever, quoi. Et je me rappellerai toujours Popovic qui vient me voir à la fin de l'entraînement. Il fait, j'ai adoré ça, j'ai adoré quand tu l'as poussé et tout. Tu sais, il me montrait que quoi qu'il arrive, je serai fiable et ils peuvent compter sur moi. Si on va à la guerre, moi, je serai là.
C'était dur, le jeu de la NBA ?
Bien sûr, c'était beaucoup plus physique que maintenant. Maintenant, tu ne peux plus défendre. Maintenant, la NBA, c'est de la stratégie, ce que je comprends. Ils veulent qu'il y ait plus d'attaques, plus de paniers. C'est mieux pour les contrats télé, pour les fans. Mais moi, à mon époque, et encore dans les années 90, c'était encore pire. Mais nous, dans les années 2000, c'était encore très, très physique. Tu pouvais défendre. Non, moi, j'aimais bien. J'ai joué dans une ère où j'ai joué quand même. C'était contre Jordan, donc c'était la fin de Jordan. J'ai joué contre Kobe Bryant dans son prime, Shaquille O'Neal dans son prime, LeBron James dans son prime. Si tu regardes le top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps, de tous les spécialistes, je crois que j'ai joué contre 6, et la plupart dans leur prime, quoi. Donc c'est quand même ouf, quoi. J'étais vraiment dans une ère où il y avait vraiment des grosses équipes, des gros joueurs, des superstars. C'était sympa.
Et comment tu as vécu ces débuts assez tonitruants où tu es notamment dans la rotation, mais tu te retrouves à être dans le 5 majeur au bout de 5 matchs.
J'étais trop étonné, hein. Jamais j'aurais pu imaginer un truc comme ça. Au bout de 5 matchs, Pop il m'appelle dans l'avion Et il me dit, bon, demain, tu commences, t'es titulaire. Je fais, waouh, j'ai fait, ah bon, mais on va pas perdre de temps, c'est bon. En plus, j'avais bien joué, c'est clair, les 5 premiers matchs. Et il m'a dit, on va pas perdre de temps, t'es tout de suite titulaire, tu vas gagner de l'expérience, il faut que tu sois prêt en play-off. Parce que l'objectif principal des Spurs, c'est qu'il faut battre les Lakers, quoi. C'était la référence, les Lakers, c'était la référence quand moi je suis arrivé en NBA. Et c'était Kobe, Shaq, c'était la grosse équipe. Et donc, ma première année, on perd contre en demi-finale. Mais ma deuxième année, on les bat et en route pour notre premier titre.
C'est important quand même de revenir sur le fait que tu deviens, bah, je crois, le premier, enfin l'un des plus jeunes meneurs.
Je deviens le meneur le plus jeune, ouais. Ouais. En fait, en faisant ça, Pop, il m'a fait devenir le plus jeune meneur titulaire en NBA.
Et même parler même du poste de meneur de jeu, parce que ouais. C'est peut-être l'un, si ce n'est le poste le plus compliqué.
Ouais, c'est le poste le plus dur, parce que tu es le relais du coach. C'est ton job pour que tout le monde soit content sur le terrain. C'est toi qui décides des systèmes, qui contrôle le tempo du match. Non, le meneur, il a énormément de responsabilités dans le basket.
Tu as parlé justement de relais du coach, parce que c'est un peu le début de ton fardeau, entre guillemets. Mmh. Parce qu'à partir du moment où tu deviens titulaire meneur, t'as Greg Popovich qui est sur tes côtes en permanence.
Ah ouais, ben ça, mes deux premières années, c'était incroyable. Plein de fois, je suis rentré chez moi, j'avais larmes aux yeux, je savais pas si j'allais réussir. Il était très, très intense. D'ailleurs, Tim Duncan le dit, Ginobili le dit, j'étais le joueur où il m'a le plus défoncé, quoi, devant tout le monde. Des séances vidéo, il m'humiliait devant tout le monde, il voulait tellement me rendre dur et que je réussisse. En fait, il voulait voir si j'allais break, en fait. Je pense qu'il voulait savoir tout de suite. J'ai pas envie de perdre mon temps. Donc, on va savoir tout de suite si ce petit meneur-là, tout maigre-là de 19 ans, il va tenir en NBA, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'ils étaient comme ça.
Justement, avec moi. Ça ressemblait à quoi, le pressing de Greg Popovich? Et aussi, comment toi, du haut de tes 19-20 ans, t'arrivais à avoir ce recul nécessaire pour prendre bien la chose et comprendre que c'était pour ton bien, plutôt que d'être impulsif et comme tu pouvais l'être, tu aurais pu l'être à ton âge, quoi.
Moi, j'ai toujours eu un grand respect par rapport à la hiérarchie. Et c'est comme ça que j'ai été éduqué avec mon père, de respecter la hiérarchie, respecter les anciens, respecter l'histoire, ceux qui étaient là avant toi, d'être respectueux. Et donc moi, j'ai toujours eu un rapport avec mon coach où t'écoutes ce que le coach il dit, quoi. Le coach, c'est le chef, c'est lui qui annonce les systèmes. Et donc quand il est tout le temps en train de crier, tout ça, j'essaie d'essayer du mieux possible pour qu'il soit content. Même si, et il en rigole maintenant, il savait très bien que c'est impossible d'être parfait. C'est impossible d'être parfait. Tu vas faire des erreurs. Mais voilà, il m'a poussé au maximum.
Depuis que je suis tout petit, je rêve de titre NBA, de gagner ça. C'est le but ultime pour tout joueur de basket parce que c'est le championnat le plus dur au monde.
Ça fait quoi d'atteindre ton plus gros rêve, en tout cas le rêve ultime de ta vie, à seulement 21 ans, si je dis pas de bêtises?
C'est ça, 21 ans. Ben, tu sais, quand t'as 21 ans, t'as du mal à réaliser parce que tout va tellement vite. Le premier titre, j'ai l'impression que c'était un blur. Tu vois, je me rappelle plus trop. Tout ce que j'adore, c'est la couve de l'équipe où tu me vois avec le trophée et tu sais, je le regarde, tu sais, comme un gamin avec des étoiles plein les yeux. Je pense que le premier titre, c'est énorme comme sensation, mais tu peux pas vraiment, vraiment, je trouve, t'en rendre compte en fait. Parce que quand tu es dedans, tu as l'impression que ça va arriver tous les ans. En plus, on a gagné 3 titres en 5 ans. Et donc, tu te dis, on va en gagner beaucoup. Et puis après, tu rentres dans la réalité et tu sais que c'est très, très dur de gagner un titre et qu'il a fallu attendre 7 ans. Donc, on est en 2007, là, j'ai 25 ans. 7 ans pour en gagner un autre. Et ça, c'était long.
Justement, j'allais te demander si ça t'avait pas déréglé, mais ce qui est intéressant, c'est que au moment où tu gagnes ton titre, il y a un journaliste qui vient te parler, qui te demande tes impressions, et tu dis « ouais, je pense qu'on peut en gagner 3 ou 4 encore ». En vrai, t'as
plus juste. Ouais, c'est clair, j'avais dit ça, mais à l'époque, j'avais dit ça, mais je m'en rendais même pas compte que c'était dur ce que j'annonçais. Et parce que quand tu regardes dans l'histoire de toute la NBA, qu'on parle de 75 ans d'histoire quand même, t'as que, je crois, une quarantaine de joueurs qui ont 4 titres. Donc, t'imagines tous les joueurs qui sont passés en NBA, tu as 400 joueurs en NBA, tu as 60 qui dégagent, 60 nouveaux qui rentrent chaque année. Et on a eu des joueurs en NBA, donc 40, c'est pas beaucoup.
À un moment, il y a un changement de statut qui s'opère. Il y a notamment un truc qui est un fait un peu anecdotique, mais le moment où tu deviens le sportif français le mieux payé, ouais. Le mieux payé de tous les temps, entre guillemets. Et je me rappelle, il y a eu des sujets télé, France 2 qui vient chez toi et qui te demande ce que ça te fait. Et tu disais que ça te faisait pas grand-chose. Par rapport à l'argent, rapidement, j'avais vu, et tu me dis si je me trompe, que tu avais quand même calculé pour ta renégociation salariale le salaire moyen par rapport aux autres meneurs de jeu de la Ligue en fonction de leur statut pour être sûr d'avoir ce que tu méritais à l'époque.
Ah, J'étais déjà en mode businessman parce que je savais qu'avec Pop, ça allait être une négociation dure. Et donc, les Spurs, ils sont réputés pour être très, très féroces en négoce. Et donc, c'est pour ça que moi, je voulais être préparé et que si je voulais avoir ce que je voulais, il aurait fallu que je vienne avec des bons arguments.
Et dans ce même sujet, il y a un moment où tu parles justement de ton statut et tu dis je peux être le sportif français le mieux payé au monde, j'aurais jamais le statut de Zidane parce que je fais du basket et que je suis aux États-Unis. Et justement, juste après, j'ai l'impression, et tu me dis ce que t'en penses, il y a une sorte de changement de statut qui s'opère. Et je zappe directement vers 2007, où d'un coup, tu deviens, au-delà d'être le français qu'on connaît de loin qui joue en NBA, tu deviens Tony Parker, un joueur important. C'est-à-dire que tu es sélectionné une deuxième fois au NBA All-Star, tu deviens un MVP des finales, je te laisserai en parler. Mmh. Tu fais parler de toi de manière hyper mondiale, tu sors même avec Eva Longoria, ouais. C'est-à-dire ouais. que tout le monde entend parler de toi. Mmh. Est-ce que tu te rends compte qu'à ce moment-là, tu passes un nouveau statut, un nouveau cap?
Sur le moment, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que tu vois que c'est clair quand tu sors avec une star internationale et en même temps, je suis All-Star, MVP des finales, tout ça, tout va très très vite en fait. Donc non, parce que moi je suis toujours dans ma bulle et j'ai envie de continuer à progresser et c'est ce qui a fait ma force, quoi. Je savais que si tu veux avoir une longévité dans le sport, il faut jamais se reposer sur ses lauriers, il faut continuer à travailler. Et en même temps, oui, parce que c'était la folie à cette période-là. Et c'est vrai que c'est à cette période-là, quand j'étais MVP, que les gens ont commencé à me comparer genre en disant je suis le Zizou du basket. Et c'est un super compliment, quoi, parce que Zizou, c'est un peu la référence pour nous en France en tant que sportif, parce que le foot, c'est le sport numéro un en France. Et pour moi, c'était un super compliment. Et moi, j'ai toujours pris très, très au sérieux mon rôle d'ambassadeur du basket français. À chaque fois que j'ai gagné un titre, le premier truc que je fais, je monte le drapeau français. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur quand je vois les petits porter mon maillot. Moi, j'étais ce petit-là qui portait le maillot de Jordan quand j'étais petit. Donc, je sais c'est la responsabilité qu'il y a derrière tout ça. Et de continuer, voilà, maintenant je suis animé par ça, la transmission, redonner à mon pays, inspirer les jeunes, c'est ce qui m'anime maintenant.
Et tu as l'impression qu'il y a une sorte de changement d'air ou de vision au moment où on ose donner à un Européen le titre, peut être très symbolique parce qu'on en parle, je trouve pas assez, mais vraiment d'MVP des finales. San Antonio Spurs win the World Championship to the MVP of the 2007 NBA Finals. Tony Parker, we say congratulations and bonne chance.
Oui, quand même. Enfin, je deviens le premier Européen à être MVP des finales, donc c'est clair que c'est quand même quelque chose de malade. Parce que je me rappelle au bout du deuxième match, j'ai fait les deux premiers matchs, j'ai fait deux très gros matchs, et t'as un journaliste qui me dit, Tony, est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner MVP des finales? Et là, je le regarde, ça me semblait tellement bizarre parce que nous, notre équipe, notre franchise player, c'était Tim Duncan. Et moi, je respectais la hiérarchie et ça ne me dérangeait pas du tout d'être le numéro 2. Pas de problème, moi, j'étais bien. De toute façon, pour gagner des titres, il faut des forts joueurs et on était très complémentaires. Donc, pour moi, c'était... Quand il m'a dit ça, j'ai fait, mais non, c'est Tim Duncan, notre MVP. C'était lui qui était MVP en 2003, c'était lui qui était MVP en 2005, des finales, quand on a gagné. Et donc, franchement, j'y croyais pas. Tant que David Stern ne dit pas Tony Parker, MVP of the Finals, je ne croyais pas. Et c'est vrai que quand il a dit mon nom, j'ai fait waouh. J'ai fait waouh, MVP des finales. J'ai fait, c'est quelque chose. Mon nom, il sera gravé à côté de celui-là de Jordan, de Magic Johnson, de Tim Duncan à jamais. Et c'est là où, pour moi, ouais, tout a un peu basculé.
On parle de 2007 avec les finales NBA. Mm-hmm. Il y a aussi un gros événement qui arrive à ce moment-là, qui est hors du basket. On est obligé d'en parler. C'est l'album Tipeee. J'aimerais savoir, c'était quoi ton approche à l'époque quand tu te lances dedans Et non, savoir ton approche par rapport à ça.
Bah, moi, quand j'ai commencé, c'était un bol d'air, quoi. C'était un bol d'air, parce que tu sais, quand tu as tellement de pression, c'était génial de pouvoir faire autre chose, de terminer l'entraînement de basket, d'aller en studio, de voir un autre monde. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Je jouais au piano et donc j'avais des amis voilà, dans la musique, et tu sais que le monde de la musique et du sport, c'est très très lié, surtout le foot et le basket, on est très très lié avec le monde du hip-hop. Et donc un de mes meilleurs amis, c'était Cut Killer, donc j'ai toujours voilà, baigné dedans. Et donc un jour, j'ai commencé voilà, à rapper et puis ça s'est fait naturellement avec les potes, on rigole, tu fais des petits challenges, tout ça. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais faire un album, quoi. Donc, je fais un ou deux morceaux, je crois, à l'époque. Et je l'envoie à Cut, et il écoute. Il me dit, ouais, pas mal, il faut que tu progresses sur ça, ça, ça. Et donc, après, bah, tu sais, tu commences à t'entraîner. Et puis, après, mon producteur de l'époque, qui s'appelait Scalp, enfin, moi, je l'appelle Scalpovitch, mais Scalp, il envoie, je crois, à TF1, voilà, des démos. Et TF1, ils adorent, et ils m'offrent un contrat de 3 ans. Enfin, un contrat de 3 albums, pardon. Et donc là, l'aventure commence. Donc après, je me mets à écrire et je commence à, voilà, à construire mon album. Et donc le premier album sort en 2007. Je crois qu'à l'époque, Disque d'Or, c'était 75 000 et je crois que j'avais vendu 65 000, un truc comme ça. J'étais pas loin.
Ah, mais c'était beaucoup.
Ah oui?
Parce qu'on parle souvent d'un échec commercial et tout.
Ouais, tu sais, les gens, ils aiment bien. Tu sais, en France, ils aiment pas trop quand tu fais plusieurs trucs et tout ça. Mais non, j'avais vendu 65 000. Balance-toi était resté numéro 1, je crois, pendant 3-4 semaines. Et après, TF1, ils commencent à me dire, bon, Tony, faut que tu partes en tournée pour qu'on ait le disque d'or, tu vois. Et moi, je dis, tournée? C'est quoi les dates? Et donc, c'était l'été. Et j'ai fait, mais moi je peux pas, l'été je suis en équipe de France, j'ai championnat d'Europe, j'ai les JO, tu sais, je peux pas. Et c'est là où c'était la première fois que je voyais que bah il y a un problème de calendrier en fait. Et donc j'avais fait le Hit Machine à l'époque, j'avais fait j'avais fait à Lyon. Et après, je crois que j'avais fait un troisième truc. Et j'aimais bien, tu sais, Pofond, c'est sympa, tu vas à la rencontre des fans et tout, c'est super sympa. J'avais bien aimé ces moments-là. Mais après, je voyais que c'était pas compatible avec ma première vie. Et donc, malheureusement, j'ai dû arrêter parce que TF1, ils m'ont dit, si tu peux pas partir en tournée et que tu peux pas faire les concerts, bah, ils voulaient plus continuer, ce que je comprends. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait qu'un album, en fait.
C'est un album qui était quand même assez ambitieux parce qu'on en parle comme un projet, comme un one-shot un peu léger. Il y avait quand même Booba dessus, tu avais Don Chua Soprano, bah moi, Jamie Foxx.
Moi, je vois tout en grand. Hein. Donc, à l'époque, moi, j'adorais B2O, Soprano, Funky Family. C'est pour ça que j'ai été Don Chua. Enfin, j'adorais le monde du rap. Hein. Moi, j'ai grandi avec ça aussi. Et dans les années 90, c'est là où ça commence à exploser. Tu vois, quand j'étais à l'INSEP, on écoutait ça. Celui-là qui dormait avec moi en chambre, Mamoutou Diarra. C'est son frère, c'est Oxmo Puccino. Donc, tu vois, j'avais pas mal de connexions et de facilités à les rencontrer. Et après, bah, Jamie Foxx, Fabulous. Après, quand t'as un nom, bah oui, c'est un peu plus facile d'avoir des contacts. Mais moi, j'en garde une super expérience. Moi, j'avais trop aimé. C'était trop sympa.
Pour revenir, avant de revenir à la NBA, côté basket, j'aimerais bien que tu me parles de la pige que tu as effectuée à l'ASVEL, parce que c'est un moment assez particulier. et j'aimerais bien qu'on explique aux gens ce qui concerne le
Alors en fait, ce qui s'est passé en 2011, donc c'était, on devait faire la saison donc 2011-2012. Donc en 2011, on sort du championnat d'Europe, on vient de se qualifier pour les JO de Londres. Et on perd en finale contre l'Espagne, mais c'est notre première finale européenne. Donc moi, je suis trop content, on est vice-champion d'Europe. C'est notre meilleur résultat à l'époque. Et on est sur une vague ultra positive avec le basket, ça se passe bien. Mais en NBA, on n'arrive pas à trouver un accord avec les présidents. Il fallait renégocier, tu vois, le contrat télé. Et donc, combien tu sais, les joueurs prennent et tout ça. On n'était pas d'accord avec la répartition. Et donc, les joueurs, tous ensemble, on a décidé, donc on fait grève. Et tant qu'on n'a pas d'accord, on ne commence pas la saison. Donc, quand c'était l'heure de commencer la saison, le 1er octobre, il n'y a pas eu de saison qui a commencé, en fait. Et donc, octobre passe, et là, je me dis, je viens de sortir du championnat d'Europe, je suis en pleine forme, moi, j'avais fini fin septembre. Je me dis, comme je suis en forme, je ne sais pas combien de temps la grève va durer, le lockout, on dit lockout. Je ne sais pas combien de temps le lockout va durer, mais... Ça va durer quoi? 1 mois, 2 mois, donc autant que je reste en forme, quoi. Et donc, je décide de signer à l'ASVEL dans mon propre club. J'avais investi en 2009, j'étais devenu minoritaire, j'avais acheté 20%, donc j'étais minoritaire du club. Et en 2011, je deviens directeur des opérations basket. Donc tout ce qui est basket sportif, c'était moi qui décidais. Et donc je me suis dit, je vais jouer pour le minimum 1 500 € par mois. Je vais donner l'argent à une fondation et je paye ma propre assurance parce qu'il fallait que je paye 200 000 € pour pouvoir m'assurer. Donc je n'allais pas faire payer ça à mon club, hein, parce que j'avais pas les moyens. Donc j'ai payé moi-même mon assurance. Et donc j'ai joué pendant 2 mois. Donc j'ai fait 8 matchs en tout. Et j'ai joué pendant 2 mois dans le championnat français à l'époque où j'étais dans mon prime NBA. Parce que la grève, on n'a pas repris la NBA avant, je crois que ça avait repris le mi-décembre. Donc je suis rentré le 1er décembre, on avait fait un training camp très très court. Mais c'était une super expérience parce que je pouvais jouer en France, dans mon pays, devant ma famille, mes amis. Donc j'en garde un super souvenir.
Là on parle de la France et on n'a pas encore mentionné la sélection nationale. Ouais. Comment tu as vécu un peu cette transition assez spéciale où tu étais du coup le premier joueur déjà européen, déjà, donc alors français j'en parle même pas, mis en valeur à ce moment-là et que tu dois t'arriver en sélection avec ce rôle de leader là où en club tu avais peut-être ce côté big three qui pouvait détacher de sa responsabilité. Ouais.
C'était pas facile au début, c'était pas facile parce que forcément tu crées beaucoup de jalousie et c'est jamais facile quand tu arrives à 19 ans en équipe nationale, c'est pas facile. Mais moi j'ai été très respectueux des anciens et ça a pris du temps avant que ça devienne entre guillemets mon équipe. Les deux premiers championnats d'Europe, c'était pas mon équipe, 19 ans et 21 ans. Mais on fait des bons résultats. On loupe quand même la qualification pour les JO d'Athènes. Donc ça c'était vraiment une grosse déception. Mais après, à partir de 2005, voilà, c'est très très clair dans la tête de tout le monde que maintenant voilà, c'est ma génération et je vais devenir le leader de cette équipe de France. Et en plus, je sors d'un deuxième championnat NBA. Je suis deuxième fois champion NBA en 2005. Et donc là, j'arrive en équipe de France avec beaucoup d'espoir, d'aspiration. J'ai envie de faire des gros trucs. Et cette année-là, on fait médaille de bronze. Et donc, c'était une belle médaille, mais en même temps, j'étais un peu déçu. Parce que je suis compétiteur, moi, je veux gagner la médaille d'or. Mais après, c'était la première médaille depuis 50 ans dans un championnat d'Europe dans l'histoire du basket français. Donc les gens, ils étaient très, très fiers. Mais moi, j'avais toujours dans la tête Grèce, demi-finale, on est à plus 7 à 40 secondes de la fin. On ne doit jamais perdre ce match-là. Normalement, en 2005, on aurait dû être champion d'Europe.
Et je reviens à tes débuts. Et tu as très justement dit qu'il y avait de la jalousie au début. Et c'est intéressant parce que c'est un point qui est toujours un peu flou.
Ouais.
Et même, je repense à ton documentaire où on a Vincent Collet d'un côté qui aimait cette hypothèse. Et on a un des joueurs, je n'ai plus le nom, je suis désolé d'avance, mais qui d'un coup l'annule. Et ça, c'est intéressant. Il y avait vraiment de la jalousie envers les anciens ou c'était les joueurs au complet qui avaient du mal avec le fait que tu sois âgé de 19 ans, 20 ans et que tu sois le nouveau leader?
C'est dur à expliquer comment tu le ressens et tout ça. C'est juste que par rapport à des trucs qui se sont passés, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est par rapport à des trucs qui se sont passés qui m'a fait penser qu'il y avait de la jalousie. Après, c'est vrai qu'un des anciens a dit « Non, c'est pas vrai, tout ça, nous on respectait Tony. » Après, moi, c'est juste mon ressenti. Après, je peux peut-être me tromper. Hein.
Toi, t'avais la bonne mentalité à l'époque?
Moi, j'étais un jeune fougueux. Tu vois, moi, j'étais en mode, tu sais, un peu à l'américaine, quoi. Tu sais, j'avais envie d'être champion d'Europe, nos limites. J'étais très différent. Et en plus, je sortais de mon premier titre de champion NBA. Donc, moi, j'étais sur une vague ultra positive.
On le ressent même dans je pense à l'élimination à l'Euro 2003, où vraiment, en plus, il y a ta perte de balle à la fin et t'es à chaud et tu te dis « Ah, mais je peux pas faire tout seul » et c'est une phrase qui est très mal passée dans le collectif.
Ouais. Tony Parker a l'occasion là d'enrichir un petit peu sa légende naissante. Il perd le ballon, Tony Parker! Il a perdu le ballon! Et la faute de Moussoko derrière! Tony Parker qui perd le ballon!
Ouais, je me rappelle. Je me rappelle, mais tu sais, quand t'es à chaud, t'es un peu énervé et t'es déçu. Et c'est vrai qu'après, quand je relativise, j'aurais pu m'exprimer autrement par rapport à ce qu'on a fait en équipe. Mais c'est vrai que j'étais tellement déçu de ne pas aller au JO d'Athènes que c'est sorti tout seul, quoi.
Il y a eu une assez longue traversée du désert, même s'il y a eu quand même quelques médailles en lot de consolation avant 2013. J'aimerais bien que tu me parles de cette épopée-là en te centralisant.
Tu vois, c'est marrant, 2013, c'est marrant parce que tu vois, c'est un été où au début, j'avais dit je viens pas en équipe de France. Donc c'est marrant comment ça se passe, la vie et le destin. Parce qu'en 2013, on perd en NBA 4-3 contre Miami, une défaite horrible parce qu'on menait 3-2. On perd le match 6, on perd le match 7. Et donc là, on finit. Pour moi, c'est la plus grosse défaite de ma carrière. Et donc là, je suis tellement déçu, je ne me vois pas repartir direct. La saison, elle était longue. On est allé en 7 matchs. C'était long, la saison. Et au début, je dis à Vincent Collet, je ne pense pas que je vais venir en équipe de France. Et en fait, 48 heures après, je l'ai rappelé. J'ai fait non, c'est bon, je viens. Parce qu'en plus, on avait une équipe. Il y avait plein de joueurs qui ne venaient pas, en fait. Joachim Noah, il avait annoncé qu'il ne venait pas. Enfin, on avait plein de joueurs pour différentes raisons. Hein, renégociation de contrat ou j'ai envie de me reposer. Et ben, on avait plein de joueurs qui ne venaient pas. Et je me dis, wow, je vais repartir en équipe de France. On n'a même pas la meilleure équipe. Et en fait, c'est cette année-là qu'on gagne le titre, quoi, qu'on fait cette épopée incroyable. En plus, on arrive au championnat d'Europe, on perd le premier match. On perd le premier match du championnat d'Europe. Mais c'est pas le plus important. Et après, notre envie, on s'est battu. Et en quart de finale, on joue la Slovénie. C'était en Slovénie, le championnat d'Europe. Donc déjà, c'était un match de malade, ce match-là. Et on arrive à les sortir. Et après, la demi-finale, ça reste, pour moi, peut-être mon meilleur match en équipe de France, parce qu'on bat notre bête noire, l'Espagne, après prolongation. Et là, cette victoire-là, c'est une des victoires où j'ai ressenti le plus d'émotions, quoi. J'étais tellement content quand on a battu l'Espagne, parce que je voulais tellement gagner une médaille d'or pour l'équipe de France. De toute façon, j'ai toujours dit, j'aurais eu l'impression d'avoir pas réussi ma carrière si j'avais pas gagné une médaille d'or avec l'équipe de France. Parce qu'on a gagné en 2000, en junior, et je m'étais fait cette promesse que je ramènerais la première médaille d'or de l'histoire du basket français. Et c'est pour ça que quand on a battu l'Espagne, après je le sentais, quoi. Je savais qu'on allait être champion et qu'on allait amener le premier titre de l'histoire.
Et c'était un peu symbolique parce qu'à l'époque, c'était vraiment la bête noire, l'équipe, en tout cas la génération qui traumatisait le plus notre équipe de France.
Grave, hein, parce que s'il n'y avait pas l'Espagne, s'il n'y avait pas Pau Gasol, et franchement, je pense qu'on aurait beaucoup plus de médailles d'or.
Et pour revenir sur le discours à la mi-temps, qui est peut-être reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands moments du sport français.
Ça va, les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Moi, je parle pas de l'attaque. Hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer.
Qu'est-ce que tu avais en tête ? Et est-ce que tu peux aussi contextualiser pour les gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passait à ce moment-là ?
En fait, déjà dédicace au frère d'Orelsan, hein, parce que c'est le frère d'Orelsan qui a fait cette vidéo. Et franchement, au début, je savais même pas qui filmait à ce moment-là. Parce que moi, tu sais, on parle de choses qu'on devait faire et on devait faire ça comme défense. Et en fait, on a joué avec une peur incroyable. Donc moi, j'arrive dans le vestiaire, on est à 14 points, moins 14. Ils nous ridiculisent, ils nous regardent, tu sais, ils nous respectent pas, quoi. Et ça, je pouvais pas. En plus, on perdait 32 à 18 et sur les 18 points, j'avais mis 14 points. Et je savais très bien qu'on n'allait pas gagner si il y a que moi qui marque, c'est impossible, quoi. Et donc là, je rentre dans le vestiaire, je commence à m'énerver tout seul. En fait, ça sort tout seul, en fait. Je parle avec mon cœur et je dis, mais tu sais quoi, si on perd, c'est pas grave. Mais au moins, on se bat, tu sais, on joue avec de la fierté et qu'à la fin du match, on peut se regarder dans le miroir et dire, c'est quoi, j'ai tout donné. Et si tu as tout donné et ils sont meilleurs que nous et qu'ils gagnent, ok, ça c'est la vie. Mais on va pas perdre comme ça en ayant peur et en jouant pas, tu sais, comme je sais qu'on pouvait jouer. Et je termine mon speech en disant aussi à Antoine Diot, je lui dis, et puis tu sais Antoine, arrête d'annoncer les systèmes pour moi. C'est quoi ? Oublie-moi.
Plus rien à perdre maintenant, plus rien à perdre. On joue.
Le rouge, pense !
Antoine, t'as un tir, tu le prends. Alexis, t'as un tir, tu le prends. On n'a plus rien à perdre maintenant. Let's go. Et tu sais quoi, Nando, Antoine, annonce des trucs pour Nico, pour Bobo, une fois sur cinq pour moi. Oublie-moi.
Et pourquoi je dis cette phrase-là, c'est pour justement dire à mes coéquipiers, moi j'ai besoin de vous, de toute façon, si vous ne jouez pas bien, de toute façon, on ne gagnera pas. Donc après, ils étaient galvanisés. Après la deuxième mi-temps, hein, mes coéquipiers étaient en fire. Et on a peut-être fait la meilleure mi-temps de l'histoire du basket français. C'était incroyable comment on est revenu.
Le sentiment d'accomplissement que tu as eu lorsque tu as gagné ce titre européen, est-ce que c'était comparable?
Mais j'ai senti encore plus fort que quand on a gagné un titre NBA, quoi. Parce que là, tu joues pour ton pays. Tu sais, c'est ton pays. C'est pas pareil que quand tu joues pour un club, pour une ville. Là, tu joues pour tout un pays. Je m'en perdrai toute ma vie. Le jour de la finale, c'est le matin, c'est après le shooting. On est dans la chambre avec Boris. Puis je reçois tellement de textos, des mots, mais tellement gentils. Ah, vous méritez, ça fait 10 ans que vous courez après ça, vous méritez, vous méritez. Puis après, je prends l'équipe et je lis l'équipe, et puis je vois, oh, cette génération, elle mérite une médaille d'or, ça. Et je me dis, waouh, si on ne gagne pas là, les gens, ils vont être tellement déçus. Et je me rappelle que les larmes étaient montées, mais tout seul, en me disant, il y a beaucoup de pression là, il faut qu'on gagne, on n'a pas le choix. Et j'étais fier hein, quand on a gagné là, quand le buzzer final il arrive et tu sais que t'es champion d'Europe, hein, c'était cool.
Est-ce que tu doutais une seule seconde entre l'enchaînement assez hasardeux, la défaite traumatisante face au Miami Heat, puis le titre européen, que t'allais revenir en NBA et faire la saison qui arrive après?
Non, jamais, jamais. Mais c'est ce que je dis toujours, tu sais, des fois les pires choses qui peuvent arriver dans ta vie, ça peut être la fondation et le début des grandes choses qui vont arriver. Et comme on a perdu en 2013, c'est ce qui a créé 2014. Et cette faculté, justement, nous, mentalement, de rebondir et de revenir encore plus fort. Et cette année-là, on a joué, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les médias, un des plus beaux baskets de l'histoire de la NBA. Cette finale contre Miami, elle a été exemplaire. La façon dont on a joué, comment on se partageait le ballon, on se trouvait les yeux fermés. Je pensais qu'on pourrait battre Miami comme ça, 4-1, et à chaque fois on leur mettait 20 points, et tu sais, il n'y avait pas photo, quoi. C'était vraiment une belle revanche pour nous, après 2013. Et c'est le titre que j'ai le plus aimé, parce que j'ai le plus réalisé, en fait. Parce que là, à cette époque-là, à cette période-là, j'ai 32 ans. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas gagné un titre NBA, donc c'est le désert. Et tu étais tellement prêt en 2013. Que tu dis, oh non, j'ai pas envie de terminer ma carrière, et les gens, tout ce qu'ils vont se rappeler, c'est 2013 et notre défaite. Donc non, 2014, c'était incroyable.
C'est ton plus beau titre NBA?
Ouais, franchement, ouais.
On parle beaucoup de tes affrontements contre LeBron, là, justement, ouais. Parce que tu as joué beaucoup contre son équipe de Cleveland et puis Miami.
Ouais.
Tu as aussi beaucoup joué contre Kobe Bryant. Est-ce que c'est les joueurs les plus compliqués c'est les joueurs contre qui tu as mené les batailles les plus rudes?
Ouais, franchement, ouais. Moi, c'est les meilleurs joueurs contre qui j'ai joué. Je dirais même le plus talentueux contre qui je jouais, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant, pour moi, c'est le plus fort. C'est le plus fort. Pour moi, Jordan, c'est le meilleur de tous les temps, mais Jordan, il était en fin de carrière quand j'ai joué contre lui. Alors que Kobe, il était dans son prime. Et j'ai joué contre Kobe et LeBron dans les primes. Ah, Kobe, il était incroyable.
Ça représente quoi, du coup?
Pourtant, LeBron, c'est un fort joueur. Hein. Mais pour moi, comme moi, je considère Jordan le meilleur de tous les temps, et que Kobe, c'est ce qui se rapproche le plus de Jordan, il était, voilà, il était inarrêtable, il avait un killer instinct, tu vois, de tueur, quoi. C'était un tueur à gages, le gars, et ça, comme il dit, ça, Mamba mentality, là, c'est incroyable.
Et justement, c'était une bataille mentale avant d'être une bataille aussi physique, j'ai l'impression, avec lui, parce que j'avais vu qu'il cherchait à te déstabiliser de différentes manières, à faire en sorte que Popovic te crie dessus.
Il voulait toujours me parler en français, il voulait toujours essayer de me chambrer, parce que les Lakers, ils mettaient Kobe pour défendre sur moi. Et donc, à chaque fois, il voulait essayer de me parler, et je répondais pas, je disais rien. Ça me faisait rire, quoi, qu'ils prennent le temps, tu vois, d'essayer de trouver des phrases en français pour venir me déstabiliser, une marque de respect.
3 minutes gone, fourth quarter, Simmons. Tony Parker's 8-12. Rebound by Anderson inside. Now Tony Parker's down. Oh, Parker is down at the other end.
Si j'avance un peu, il y a la blessure de 2017.
Oui.
Et ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as toujours été un homme de choix, et de choix assez improbable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aurait pu attendre de toi que tu arrêtes ta carrière.
Ouais,
parce que je ne sais plus exactement le terme de la blessure, mais t'étais supposé être arrêté.
En fait, je me suis fait une rupture du quadriceps, enfin le tendon, tu vois. Et donc, dans le basket, normalement, quand tu te blesses, c'est soit les croisés, les grosses blessures, ou soit rupture du tendon d'Achille. C'est ça, les plus grosses blessures. Et donc, moi, quand je me blesse, tu sais, je suis par terre. Bon. Je peux pas bouger ma jambe. Donc je me dis, c'est bizarre, je peux pas bouger ma jambe. Mais je sens rien sur mon genou et mon tendon d'Achille. Donc moi, je dis, oh, ça peut pas être très grave, quoi. J'avais pas encore réalisé que je pouvais pas bouger, que j'ai trois mecs qui m'ont porté pour mettre dans la chaise et que je peux toujours pas bouger la jambe, en fait. Et donc là, on arrive, le docteur, il vient et tu sais, le tendon, il est ici. Et donc là, mon tendon, il était là. il était là, donc, parce qu'il y avait une rupture. Donc en fait, quand il a fait comme ça, normalement, quand il y a le tendon, ça s'arrête, tu vois, ça, c'est dur. Et là, ça faisait comme ça, en fait, tu vois, c'est tout droit, tu vois. Et là, je le regarde, je fais, OK, donc je suis out combien de temps? Un mois? Et là, il me regarde, il fait, non, mais Tony, t'as fait rupture du tendon de quadriceps. Ça, c'est blessure, normalement, t'as ça à 65 ans, 70 ans, un truc de vieux. Non, c'est très grave. Je fais, ah bon? Mais je fais, mais quoi? Je suis out un mois et demi? Et lui, il me dit, non, t'es out un an minimum, et peut-être tu pourras plus jamais jouer au basket, parce que tu pourras plus jamais plier ta jambe, tu sais, jusqu'au bout, quoi. Et là, je le regarde, j'ai les larmes aux yeux, je fais, waouh, je fais quoi? Il fait, mais oui, ton tendon, il est là, tu vois, et là, tu commences à dire, enfin, il fait, là, dans 48 heures, il faut que tu te fasses opérer, là, direct. J'ai fait, ah ouais, à ce point-là? Il me fait, oui, parce que là, tu vas être paralysé pendant un mois minimum. Je fais, waouh. Donc là, je pars au bloc opératoire, je me fais opérer, donc ils reprennent mon tendon, ils me le réattachent, tu vois, ici. Et là, pendant un mois, j'étais paralysé. C'est-à-dire que, tu vois, un truc simple, par exemple, tu dis à ton cerveau, dis à ta jambe, fais ça. Et ben, je dis, lève la jambe, incapable. Elle ne se lève pas. Paralysé. Et je fais, c'est un truc de fou, hein, ça fait très, très peur. Hein, quand t'es comme ça, c'est long, hein, 4 semaines, tu vois, ce que tu dis, première semaine, deuxième semaine, bon, la jambe, elle bouge pas. Je suis obligé d'avoir de l'aide, tu sais, pour m'emmener aux toilettes, tout ça. Et donc là, au bout de 4 semaines, quand j'ai enfin pu faire juste un tout petit truc, et j'ai fait, waouh, j'ai fait, c'est bon, je vais remarcher. Et donc là, j'ai dû réapprendre à marcher, ils mettaient des trucs, tu sais, sur ma tête pour, tu sais, ouais, il fallait tout réapprendre, quoi, c'est un truc de fou.
T'avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 35 ans.
T'as jamais songé à arrêter?
Non. Ah non, pour moi, c'était impossible. Et pour moi, 50% de comment tu vas revenir, ça commence avec le mental et comment toi, tu vas positiver et tout ça. Et les autres 50%, après, bah, c'est le travail, faire les séances de kiné, tout ça. Mais pour moi, 50% du taf, c'est mentalement. Et moi, dans ma tête, c'est impossible. Impossible que je termine ma carrière comme ça. Chaise roulante et tout. Non.
Y a pas eu une remise en question? Tu t'es dit, bon, si ça arrive, c'est pas pour rien. J'ai un certain âge, même si en NBA, ouais. la politique, c'est peut-être de continuer jusqu'à 40 ans, même plus, voire plus. Mmh. Et même, je sais pas, il y avait quand même un environnement où, en tout cas, des circonstances qui étaient atténuantes. Tu vois, genre, je sais qu'un an avant, tu ratais la naissance de ton fils pour les JO. Ouais, mais il y avait beaucoup d'aspects qui te disaient peut-être qu'il fallait peut-être que tu te focuses sur l'extérieur plus que sur le basket.
C'est une très bonne question, mais je me suis jamais posé cette question-là. Pour moi, c'était pas le moment, quoi. Alors que quand j'ai pris ma retraite à 37 ans, il me restait encore un an de contrat. Là, je savais que c'était le bon moment. J'ai dit, c'est bon, je suis prêt à passer à ma nouvelle vie. Mais à cet âge-là, là, et là où j'étais dans ma carrière, parce qu'en plus, on était en demi-finale de play-off. Et en plus, je taffais de ouf pendant les play-off. Donc là, non, je ne me voyais pas du tout arrêter, quoi.
Et c'est déroulé comment, la rééducation? Je sais que tu as eu notamment l'aide de Thierry Henry à ce moment-là.
Bah, Titi, il est venu, ouais, direct. Hein, dès que je suis sorti du bloc opératoire, il est venu. C'était un des premiers, voilà, à me tenir la jambe, pareil, pour m'aider, pour faire tout. Et en fait, c'était un travail de tous les jours. Je me mettais des petits objectifs, en fait. Parce que tu sais, quand tu te dis ça va durer un an, c'est tellement long qu'il faut mieux faire des petits objectifs chaque jour. Donc je me rappelle, tous les jours, tu sais, je prenais ma jambe comme ça et je forçais comme un malade. Je disais, il a dit que je vais pas plier, mais je vais plier. Tu sais, je forçais, jusque je pouvais plier ma jambe. Je lâchais pas l'affaire avec ma jambe. Ça, c'était un truc que je faisais tous les jours. Et je voyais petit à petit, tu sais, je gagnais des centimètres et tout ça. Et puis après, c'est passé, non, c'était bien. Franchement, les Spurs, ils m'ont mis le meilleur. Hein. J'avais les meilleures personnes à disposition. Ils venaient chez moi. Après, j'ai pu voyager. Je suis allé en Chine. J'ai fait la grande muraille de Chine. J'arrivais presque pas à marcher et tout ça. Après, j'étais allé sur le bateau en vacances. La dame là, qui me faisait mes soins, elle est venue pendant les 2 semaines sur le bateau. Enfin, j'ai vraiment mis tout en œuvre pour que je puisse vivre normalement. Mais j'étais en mode rééduque tous les jours, quoi.
Et je reviens sur l'appui d'un Thierry Henry, mais ça va aussi avec ton cercle amical. Quand on voit de loin, on se dit, bon, c'est une affiliation entre sportifs, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi dans ces moments-là que ce seront les personnes qui seront les plus à même aussi de comprendre ce qu'il faut
bien
dire.
Sûr. Et bah, c'est pour ça que Titi a eu un rôle essentiel, moi, dans ma carrière. Hein. Il a eu ce rôle de grand frère. Le fait qu'il ait 6 ans de plus que moi, bah, ce que j'étais en train de vivre, lui, il l'avait déjà vécu. Et le fait de, tu sais, comment gérer la pression, gagner la Coupe du Monde 98, tout ce que ça peut créer. Et c'était génial d'avoir comme une voix où tu sais, tu peux vent et tu dis tes trucs et lui, il me donne les bons conseils, quoi.
Comment tu as fait en 2018 pour aller au bout de ce choix de quitter les Spurs et de ne pas faire la boucle des 20
ans? C'était très dur, c'était très dur, parce que moi, dans ma tête, j'étais Spurs for life. Mais après, voilà, il y a une discussion, je vois que ça bloque un peu avec mon agent par rapport au contrat, ils ne sont pas d'accord. Et donc, j'ai le coup de fil de Jordan. Et c'est vrai que quand Jordan il m'a appelé, je dis ah, c'est mon idole, je peux boucler la boucle et voilà, créer une relation avec lui. Et voilà, il m'a convaincu, tout simplement, il m'a convaincu. Mais si c'était pas Jordan, mais ça aurait pu être n'importe qui, je pense qu'à la fin de la journée, je serais resté aux Spurs et j'aurais été Spurs for life. Mais c'est vrai qu'avec Jordan et aussi qu'il y avait Nico Batum, qui est un peu comme mon petit frère, on a plein de business ensemble. C'est vrai que je trouvais ça sympa de faire une année avec lui. Et en plus, dans ma tête, je ne pensais pas que ça s'arrêtait, que ça allait être ma dernière année. Moi, je pars, je dis, je signe 2 ans et puis peut-être je vais jouer après ces 2 ans.
Attendez, en vrai.
Peut-être je peux revenir aux Spurs. Mais en fait, je fais mon année à Charlotte, ça se passe bien, je joue 20 minutes par match, en plus je fais une saison correcte et tout. Mais là, je me dis, je le sens. Je sens que c'est le bon moment, j'adore mes business, j'adore tout ce que je fais dans le monde de l'entreprise. Et donc là, j'appelle Jordan et je lui dis, je ne veux pas faire ma dernière année. Je suis prêt à prendre ma retraite.
Il a pris comment?
Ah bah il a rigolé, il a fait genre comme moi, tu vois, parce que Jordan aussi, il a jamais fini ses contrats, il a toujours pris sa retraite avant. Bon, lui, il a fait 3 retraites même. et donc, il a compris. Et après, voilà, j'ai commencé la vraie vie, la vie active.
S'il y avait un moment, une séquence, même une action à garder de toute ton expérience en NBA, ce serait laquelle?
Une des actions, ouais. Il y en a plein, mais si je devais en choisir une, je dirais le tir sur LeBron James pendant les finales NBA.
Par la suite, après ta carrière, tu as vécu deux choses qu'ici personne ne peut décrire, si ce n'est toi.
Ouais.
C'est la séquence, le moment, la cérémonie où on retire ton maillot et la cérémonie Hall of Fame. Qu'est-ce que ça fait? C'est quelle sensation quand tu vois toutes ces personnes, tout ce stade qui
c'est incroyable. Autour de toi? Franchement, c'est incroyable. Les Américains, ils sont trop forts de toute façon pour ça, t'sais, pour l'histoire et faire perdurer l'histoire et les joueurs qui sont venus avant, tout ça. Les anciens, ils ont un énorme respect pour ça. Et l'histoire de la NBA, l'histoire du club, c'est tellement important pour eux que moi, j'ai pris ça, c'était un honneur, quoi. Quand ils m'ont dit la date et tout, on va retirer ton maillot, je fais waouh, plus personne jouera avec le 9 aux Spurs. C'est un vrai hommage, quoi. Et après, c'est vrai que bah, tu deviens un peu nostalgique, quoi. C'est les premières fois où tu commences à réaliser tout ce que tu as accompli avec les Spurs, tout ce que j'ai accompli avec l'équipe de France. Et c'était vraiment des moments magiques, des souvenirs qui seront gravés à jamais dans mon cœur. Et en plus, j'ai pu partager ça avec toute ma famille, tous mes amis, tout le monde est venu. J'ai à peu près 200 personnes qui sont venues pour l'événement. Et c'était bien parce qu'à chaque fois, je rigolais, je leur disais en rigolant, hey, c'est peut-être part 1, hein. C'est peut-être part 1 parce que part 2, ça va être le Hall of Fame. Et puis après, bah, on a fait ça, quoi. Part 1, c'était le Jersey Retirement. Part 2, c'était le Hall of Fame.
So my journey started with a big dream. I wanted to go in the NBA and I wanted to become the first European point guard to make it in the NBA. My dad is from Chicago. My mom is from the Netherlands, Amsterdam. I'm born in Belgium, but I'm French. I grew up with both cultures, and it helped me a lot for my journey. To my dad, I love you, Timon.
J'aurais jamais pu penser qu'à un joueur comme moi, un petit jeune comme moi, un petit jeune de Normandie, de Fécamp, pourrait voilà, vivre des moments comme ça, quoi, au milieu des légendes.
C'est bien que tu parles de ces objectifs comme des sur-objectifs, parce qu'on parle souvent de la NBA, d'être All-Star.
Ouais, parce
d'être
que moi, quand je parlais de NBA, c'était ça. Moi, je parlais de ça. Et moi, je parlais même pas d'être All-Star ou champion de NBA à l'époque, parce qu'à l'époque, moi, déjà, rien que de jouer à NBA et de sortir du banc, c'était déjà un truc de malade pour un Européen. Donc, moi, je parlais plus comme ça. Mais après, de là dire maillot retiré et Hall of Fame, il faut tellement de choses qui se passent bien. Déjà, toi, il faut que tu aies ton éthique de travail, que tu deviennes un des meilleurs joueurs. Mais après, il faut aussi que tu sois avec des bons joueurs, que tu gagnes des titres. Tu sais, ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Il faut avoir un peu de chance. Et c'est vrai que là, le Hall of Fame, c'était quelque chose quand même. J'ai jamais fait un speech. Enfin, j'ai l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Mes jambes à trembler. Enfin, pourtant, j'en ai fait des speeches dans ma vie en tant que président. Mais là, c'est pas n'importe quel speech. Et tu sais que le monde entier va regarder. Et là, tu peux vraiment. En tout cas, j'espère que j'ai fait un speech qui aura voilà, une importance pour inspirer, on va dire, la nouvelle génération. So,
for all the kids who are watching, keep dreaming big. Thank you very much. I appreciate and love you all. Let's have a good night.
Et donc là, on parle d'un moment où tu es vraiment en dehors du basket, en tout cas que ouais. t'es plus actif. Tu portes quel regard sur le basket français depuis que t'as quitté le circuit, notamment sur ce qui se passe actuellement? Tu vois, récemment, il y a la débâcle à la Coupe du Monde. Est-ce que pour toi, c'est une défaite qui est anecdotique ou c'est
simple? Tu parles de championnat de France, genre avec l'ASVEL, la Betclic Elite, ou tu parles de l'équipe de France?
Je parle de l'équipe de France, ouais.
Bah, moi, je suis un amoureux de l'équipe de France. L'équipe de France, pour moi, c'est super important. Et j'y ai passé presque 20 ans de ma vie entre l'équipe de France cadet, junior et en pro. Tous les étés, c'était pas mal de sacrifices. Moi, j'ai adoré jouer en équipe de France. Et je prends beaucoup de fierté de jouer pour mon pays. Et quand je suis arrivé, comme je te disais tout à l'heure, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu de médaille. L'équipe de France, elle n'était pas respectée, les arbitres, ils ne nous respectaient pas, les grosses équipes, ils n'avaient pas de respect pour nous. Et donc nous, on a dû, tu vois, monter et gravir les échelons. Chaque été, on progressait. Et c'est pour ça que je suis très très fier de notre parcours en équipe de France et que je ne changerai rien de ce parcours-là, parce que je suis content que j'ai mis presque 12 ans pour ramener le premier titre, parce que je suis fier de ce qu'on a fait. Et quand je vois l'héritage et comment les jeunes... on est quand même le pays européen le plus représenté en NBA. On a des joueurs qui sont draftés, premier choix de la draft, et qu'ils ont continué à avoir des médailles, c'est-à-dire 2019, médaille de bronze à la Coupe du Monde, après médaille d'argent au JO, après médaille d'argent au championnat d'Europe. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Après, oui, il y a eu cet accident-là cet été, mais tu sais, la victoire, ça joue à rien, quoi. Une victoire, une défaite, ça joue à tellement peu de choses. Mais moi, je suis tellement fier de la place qu'on a maintenant au jour d'aujourd'hui. Et j'espère que l'équipe rebondira et qu'ils seront encore plus forts l'année prochaine pour faire des bons résultats au JO.
Tu n'es pas du tout dans cette posture où tu te dis qu'il y a vraiment un état d'urgence au niveau du basket français?
Non.
Et autre chose, il y a le KO Mbanyama, parce que c'est peut-être la nouvelle figure, en tout cas le nouveau visage de la nouvelle ère du basket français. Mm-hmm. Toi, tu as quel avis sur Victor Wembanyama? Ça t'a fait quoi de voir ce prospect un peu générationnel?
Ouais, moi, j'étais trop content pour lui. En plus, moi, j'ai reçu toute la famille. Tu vois, sa grande sœur, elle était à l'académie. J'ai encore le petit frère à l'académie, là. Et on a été champion de France ensemble avec l'ASVEL. Donc, non, c'est une super famille. Victor, il est déterminé. On a des valeurs... très similaire, et tu sais comment on voit les choses et cette force mentale qu'il a, je me reconnais beaucoup. Et voilà, je suis très content pour lui. Je sais qu'il voulait aller à San Antonio, il voulait jouer aux Spurs, et le destin a bien fait les choses. Et j'ai hâte maintenant de le voir commencer et de voir comment il va se débrouiller, parce que les attentes, elles sont irréelles, les attentes de le comparer à Jordan, LeBron James. Et je sais qu'il est comme ça, mais il sera Victor. Tu vois, il ne faut pas qu'il essaie d'être quelqu'un qu'il n'est pas, il sera Victor. De toute façon, il est déjà unique par rapport à ses skills, comment il joue, la taille qu'il fait. Ça n'existe pas des joueurs comme ça. Donc, hâte de voir comment ça va se traduire maintenant en NBA.
Tu lui as donné quoi comme conseil?
Pas grand chose, hein. Franchement, Victor, il vit sa vie, hein. Il sait ce qu'il veut. J'ai mangé avec lui début d'été, il était venu, je l'avais invité chez moi. Et puis là, je l'ai vu la semaine dernière, parce que je vais régulièrement à la salle des Spurs pour workout. Et il était là, il prenait des news de mon enfant Josh, parce qu'il s'était cassé le bras, et puis il me pose pas mal de questions. Et... Non, c'est un gars, il sait ce qu'il veut.
Autre chose dont je voulais te parler, c'était ton rapport à la France, parce qu'en voyant ton parcours, on est comme une... En tout cas, j'arrive pas à faire un constat fermé sur ton rapport à la France, à savoir si tu es vraiment proche de ce pays ou si tu es en distance complète.
Non, je suis très très proche de ce pays. Hein. Tu sais, la plupart de mes investissements, ils sont en France. Hein. Donc, moi, j'adore la France. J'ai fait le choix, par exemple, les chevaux, j'aurais pu faire les États-Unis, ben, je le fais en France. Le vin, champagne, pareil, j'aurais pu le faire aux États-Unis, je le fais en France. Enfin, y a tous mes investissements, de toute façon, ils sont en France.
Je dis ça par rapport à ta perception des choses, et notamment, bon, je doute, mais ta dernière sortie sur la France, comme quoi il y avait un peu ce côté négatif et les grévistes qui ont déplu aux gens.
Mais tu vois, c'est marrant qu'on parle de ça parce que ça, c'est le genre typique où tu prends une phrase sortie du contexte où pendant 10 minutes, moi j'avais commencé justement ce passage-là en disant j'adore mon pays, j'adore la France, je suis fier. Quand je gagnais en NBA, je montrais le drapeau français et j'ai dit 50 000 choses géniales sur le pays. Et eux, ils prennent juste la phrase où je dis en gros, on est des râleurs. Mais c'est la vérité. Tu vas pas me dire que la France, on n'est pas des râleurs. Et on aime bien râler en France. Mais par contre, tu vas pas mettre le passage où je dis que la France, c'est magnifique. On a un super beau pays, peut-être un des plus beaux pays du monde. On a un potentiel de fou. Quand même, dans le sport, quand tu regardes, on a quand même aujourd'hui Victor Wembanyama dans le basket, Mbappé, peut-être que le meilleur joueur de foot au monde. T'as Dupont au rugby, t'as Marchand à natation. Enfin, on a quand même une génération de sportifs qui dominent. Teddy Riner dans le judo. On a un potentiel de malade et on a plein d'exemples où les gens pourraient s'inspirer justement de toutes ces différentes carrières.
C'est un moment qui t'a touché où tu prends du recul et ça te...
Ah, je m'en fous. Ah, complètement, je m'en fous. À ce qui se dit... Ah ouais, non. Moi, c'est juste la seule raison pourquoi je le sais, c'est parce que c'est mes équipes qui viennent me dire « Oh, il y a un scandale là et ils ont... » Et je fais « Ah bon, et c'est quoi ? Ah, le truc à Nice. » Oh, c'est pas grave. De toute façon, les Français, ils savent la vérité. Arrête. Et voilà, ça a duré 2 secondes. Mais c'est vrai que ça revient maintenant. Tout à l'heure, j'ai fait un plateau télé, on m'en a parlé aussi. Mais tu pourras jamais dire à moi que j'aime pas mon pays, que j'aime pas la France, et ça, c'est n'importe quoi. Ça. De toute façon, c'est à 25 ans, quand je suis devenu... Parce que c'est normal au début, quand tu es jeune, c'est humain. Tu regardes tout ce qui se dit sur toi, les journaux, tu regardes les commentaires, Insta, c'est normal, c'est humain. Mais après, moi, quand j'ai 25 ans et que je deviens champion NBA, All-Star, All-NBA et MVP des finales, et tu avais quand même encore des gens qui critiquaient, là j'ai fait oh, c'est bon, ça sert à rien, moi je vais me concentrer que sur les gens qui m'aiment et les gens qui me soutiennent, le reste, de toute façon je peux pas contrôler. Et c'est un peu ma philosophie de toute façon dans la vie, même maintenant en tant que chef d'entreprise, contrôle ce que tu peux contrôler, ça sert à rien de te prendre la tête sur des trucs que tu peux pas contrôler, quoi.
Tu as parlé d'investissement, de projet en France, est-ce que tu peux me parler du concept de la Tony Parker Academy?
Alors l'académie, le but de l'académie et notre slogan, c'est « Come to the academy, you get a job ». Donc c'est que tu sortes avec un travail à la fin. Ça, c'est le slogan. L'académie, pourquoi ? Parce que je suis animé par la transmission, j'ai envie de redonner. Et parce qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas la plateforme pour réussir, il y a plein de gens talentueux, mais ils n'ont juste pas, voilà, ou pas le réseau ou les bonnes connexions pour pouvoir exprimer leur talent. Et je savais très bien que la plupart des jeunes qui viennent à mon académie, 95% de ces jeunes-là, ils ne pourront pas devenir sportifs de haut niveau. Donc bien sûr, je m'occupe de l'élite, des 5%, c'est pour ça que j'ai l'ASVEL féminin, je vais m'occuper de l'élite, mais je voulais m'occuper aussi des 95%. C'est pour ça que je suis devenu ambassadeur de l'Institut des métiers d'excellence d'LVMH, parce que voilà, le but pour moi, c'est de susciter chez eux une autre passion. C'est-à-dire qu'ils viennent à la base pour devenir basketteur professionnel, joueur de tennis professionnel ou la musique, e-sport, enfin toutes les passions qu'on a à l'académie. Et comme je sais qu'il y a 95% de chances et ils vont pas réussir, moi je les expose à d'autres métiers. Par exemple Adidas, c'est notre sponsor à l'académie. Ok, merci pour les 25 000 euros pour financer un jeune. Mais moi, le plus important, c'est qu'il passe une semaine au marketing, qu'il passe une semaine dans les magasins, qu'il passe une semaine peut-être avec le patron, finance, tous les trucs comme ça, pour qu'il puisse progresser et peut-être découvrir un métier qu'à la base, ils n'auraient pas pensé qu'ils aimeraient.
Et puis autre chose qui est très important, et puisqu'on est même dans le décor actuellement et les gens voient derrière, tu es sur le lancement de ta propre mission chez Squeak.
Exactement.
Est-ce que tu peux me parler un peu de ce concept et de ce qui arrive?
C'est un super nouveau challenge qui est venu à moi. En fait, après 10 ans de radio, pendant 10 ans, j'avais ma propre émission de radio. Pendant 2 ans, là, les 2 dernières années, j'avais mon propre podcast. Et j'ai super, j'ai toujours bien aimé ces expériences-là. Et donc là, Squeak est venu avec une offre incroyable de faire un TV show où j'ai carte blanche, tu peux faire ce que tu veux, tu peux inviter qui tu veux, on le customise et on met les moyens derrière tu auras un super studio et tu pourras inviter qui tu veux. Et donc, c'est vrai que là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai fait, ça peut être quand même une super expérience. En plus, Quick, c'est une société que je respecte énormément parce qu'ils font beaucoup en plus pour le basket français en ce moment. Ils ont les droits de l'Euroleague, ils ont les droits du basket français, ils viennent d'avoir les droits du basket féminin. Et donc, voilà, ils sont passionnés comme moi, ils rêvent en grand. Donc, on a des valeurs quand même qui sont assez communes. Et donc, voilà, je me suis lancé dans l'aventure. Donc j'ai commencé avec les deux premiers épisodes, je les ai filmés à Springfield pendant le Hall of Fame. Donc j'avais un plateau de ouf avec Dwayne Wade, Pau Gasol, Dirk Nowitzki, et j'ai invité aussi deux de mes meilleurs amis qui connaissent parfaitement le basket, Thierry Henry et Matt Pokora. Donc on a fait un truc sympa et dans l'idée c'est d'inviter des gens pour inspirer la nouvelle génération, pour inspirer les gens. Parler de choses que peut-être tu ne parles pas à un journaliste, parce que moi je ne suis pas un journaliste, donc tu peux te confier plus facilement à l'image de mes podcasts en fait. Et t'es, voilà, tu es chez moi, tu es dans mon salon, tu es dans mon studio, et on parle de tout. J'ai envie d'avoir voilà, des grands débats, des discussions profondes, et puis passer des moments un peu privilégiés, un peu inédits, aller faire jouer au basket, bien sûr, et faire un truc voilà, qui n'existe pas ailleurs.
Donc si je récapitule la précarrière de Tony Parker, c'est la TP Academy, c'est Squeak, c'est l'ASVEL, c'est l'immobilier.
En fait, si tu veux résumer tout, ouais. Mon groupe, il s'appelle Infinity Nine Group.
Okay.
Mon groupe, il s'appelle Infinity Nine Group et il y a trois pôles qui sont basés sur mes passions. Donc premier pôle, sport. Et donc là, tu as l'ASVEL, l'ASVEL féminin, le domaine de Quétierville, Infinity Nine Rosset, c'est les chevaux, Villard, la station de ski. Après, tu as éducation. Et donc là, tu as l'Académie de Lyon et l'Académie de Saint-Ouen qui va ouvrir après les JO, parce qu'on va récupérer le site et on va construire mon académie en récupérant le site. Et après, le troisième pôle, c'est art de vivre. Et donc là, tu as mon champagne, mon rosé, ma boisson de bien-être avec Smart Good Things. Tout ça, je mets ça dans art de vivre. Et donc voilà, on a à peu près j'ai à peu près 300-350 employés, donc non, ça se développe bien et on a envie de continuer à grandir et pour moi c'est voilà, c'est une aventure humaine. Moi j'aime bien, tu vois, fédérer les gens, l'union fait la force et on essaie de construire un projet dont tout le monde est fier, quoi.
T'as encore d'autres projets?
Ah non, ça c'est bon, là ING ça me prend beaucoup de temps et j'ai envie de bien le faire et donc entre ING Et les projets comme Squeak, je suis bien occupé là, c'est bien rempli. Donc après, il faut quand même garder un peu de temps quand même pour la famille et les enfants. J'ai quand même deux enfants, deux garçons qui ont 9 ans et 7 ans. Et ça me prend beaucoup de temps aussi.
Ils sont comment au niveau basket?
Ils ne jouent pas au basket. C'est marrant, tu sais, on me demande souvent, est-ce que tu peux progresser mentalement? Est-ce que le mental, ça se travaille? Pourquoi tu regardais tout le temps Jordan quand tu étais petit? Parce que mon père, il m'a jamais vraiment forcé à regarder du basket. Il voulait surtout pas, il voulait que ça vienne naturellement. Et moi, tout le temps, quand j'avais cet âge-là, quand j'avais 9 ans, l'âge de mon fils aîné, Josh, je regardais toutes les cassettes de Jordan, je regardais tous les matchs. J'étais un student of the game, quoi. Je voulais tout regarder. Moi, Josh, je lui mets un match de basket, je suis encore heureux s'il regarde 5 minutes. Tu vois. Après, il me dit, ouais, j'aimerais bien être arbitre. Je fais, arbitre? Je fais, mais de quoi tu me parles? Arbitre? J'ai fait, mais d'où c'est venu ça? Tu sais, tu te dis, mais attends, j'ai éduqué, je lui ai montré Jordan, il n'y a rien du tout, que dalle. Arbitre. Mais bon, on s'est bien rattrapé là, il fait du judo là maintenant. Il fait du judo, il a commencé le tournoi de judo, donc tonton Teddy, il l'aide, il m'envoie des voice notes, des vidéos pour lui apprendre, parce que moi le judo, à chaque fois je le chante Teddy, à chaque fois je dis attends, tu fais comme ça pendant 2 minutes et tu gagnes une médaille d'or olympique, attends. J'ai fait, nous c'est beaucoup plus dur le basket, j'aime bien le chambrer sur ça. Mais c'est vrai que j'ai découvert un sport, tu sais déjà sport individuel c'est très différent de sport collectif. Et c'était cool d'aller au tournoi de mon fils et de voir l'atmosphère du judo, ce qui a des très très bonnes valeurs. C'est vraiment un sport sympa et je suis content que mes deux fils ils fassent du judo. Et puis en plus, c'est cool parce que j'ai le meilleur de l'histoire pour leur donner des conseils, donc c'est sympa.
Tony, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y avait un sujet ou une thématique dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé?
Pas que je sache, hein. c'est your show, man. C'est your show, c'est toi qui décides. Toi qui décides.
Moi, c'est bon.
Non, merci. Hein. Merci pour l'invitation.
Merci à toi.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.